Ne faut-il pas aussi écarter ceux qui prennent part à tous ces gouvernements, à l'exception de celui qui se fonde sur la science, comme n'étant pas de vrais politiques mais des factieux, préposés aux plus vains des simulacres, et comme n'étant pas autre chose eux-mêmes comme les plus grands des imitateurs et des magiciens, enfin, comme les plus grands sophistes parmi les sophistes. J'ai bien peur que ce nom ne s'adresse justement à ceux qu'on appelle des politiques. À la bonne heure, ceci est vraiment pour nous, ainsi que nous l'avons dit, une sorte de pièce de théâtre où paraissent une troupe de centaures et de satyres qu'il fallait écarter de la science politique. Et maintenant, voilà la séparation faite à grand-peine. À ce qu'il paraît. Mais il reste une autre classe plus embarrassante encore que celle-là, parce qu'elle a une plus étroite parenté avec l'espèce des rois, et qu'elle est plus difficile à distinguer. Et sur cela, il me semble que nous nous trouvons dans la même situation que ceux qui épurent l'or. Comment ? Ces ouvriers commencent aussi par séparer la terre, les pierres et beaucoup d'autres choses du même genre, mais ils restent mêlés à l'or, ce qui a avec lui de l'affinité, des métaux précieux, que le feu seul peut en séparer, le cuivre, l'argent, et quelquefois même l'acier qui, séparé, non sans peine, par l'affinage et l'action du feu, nous laisse voir l'or pur seul et réduit à lui-même. Oui, c'est ainsi, dit-on, que la chose se passe. De même aussi, dans le cas présent, il me semble que nous avons séparé de la science politique ce qui est tout à fait autre qu'elle, ce qui lui est étranger et sans aucun lien d'amitié avec elle, mais qu'il reste encore d'autres éléments précieux et à peu près de la même nature. De ce nombre sont évidemment la science militaire, la jurisprudence et cet art de la parole qui participe de la puissance royale, et l'aide à diriger les affaires dans les États en persuadant la justice. C'est quand on aura fait cette séparation, de façon ou d'autre, qu'on fera paraître aisément à nu et réduit à lui-même ce qu'une vie que nous poursuivons. Il est évident qu'il faut chercher quelques moyens d'y parvenir. Et en le cherchant, nous le découvrirons. C'est par la musique qu'il faut essayer de le faire connaître. Dis-moi donc. Quoi ? Il y a un apprentissage de la musique et en général de tous les arts qui tiennent à l'adresse des mains. Oui ? Mais dis-moi encore. Est-ce aussi une science, celle qui nous enseigne si nous devons apprendre ou non quelqu'un de ces arts ? Et une science qui est du rapport à César, ou bien que dirons-nous ? Nous dirons que c'est une science et une science qui a du rapport à César. Et n'accorderons-nous pas aussi qu'elle en diffère ? Oui. Et que déciderons-nous ? Qu'aucun de César ne doit commander à aucun autre ? Ou que les premiers doivent commander à ce dernier ? Ou que celui-ci doit veiller et régner sur tous les autres ensemble ? Oui, celui-ci sur tous les autres, lui qui enseigne s'il faut les apprendre ou non. Tu prétends que c'est celui-là qui doit commander aux arts qui enseignent et qui instruisent ? Tout à fait. Et celui qui décide s'il faut ou non persuader, doit-il commander à l'art qui sait persuader ? Sans doute, soit. À quel art maintenant attribuerons-nous la puissance de persuader la foule et la multitude par de vaines paroles et non par des raisons solides ? À la rhétorique, évidemment. Mais décider si c'est la persuasion ou la force qu'il faut employer dans telle ou telle occasion, ou s'il faut s'abstenir tout à fait, à quelle science attribuerons-nous ? À celle qui commande à l'art de persuader et de parler. Mais elle ne saurait être autre, ce me semble, que la science même du politique. Cela est très juste. Et ainsi se trouve promptement séparée la rhétorique de la politique, comme étant une espèce différente, mais au service de celle-ci. Oui ? Et de cette autre puissance, que faut-il en penser ? Laquelle ? Celle qui montre comment il faut faire la guerre, toutes les fois que nous nous décidons à la faire. Dirons-nous que l'art est ici pour quelque chose ou qu'il n'y entre pour rien ? Et comment s'imaginer qu'il n'y entre pour rien, quand c'est là tout le métier du général et toute la pratique de la guerre ? Et l'art qui sait discerner s'il faut faire la guerre ou conclure une alliance, croirons-nous que c'en est encore un autre ou que c'est le même ? D'après ce qui précède, il est nécessaire de dire que c'en est un autre. N'affirmerons-nous pas en outre qu'il lui est supérieur, si nous admettons encore ici ce que nous avons dit précédemment ? Nous l'affirmerons. Mais qui mettrons-nous au-dessus d'un art aussi important, aussi grand que l'art militaire tout entier, si ce n'est la véritable science royale ? Elle seule. Ainsi, nous ne dirons pas que la science du général est la même que celle du politique, puisqu'elle est à son service. Il n'y a pas d'apparence. Continuons maintenant et considérons la puissance des magistrats qui rendent la justice. Très volontiers. Que peuvent-ils autre chose que de prendre toutes les lois qui ont été établies par leur roi législateur sur les transactions des hommes entre eux et de juger ? En considérant ce qui a été institué, juste ou injuste, et en faisant consister toute leur vertu dans la ferme résolution de prononcer sur les prétentions des partis suivant les prescriptions du législateur, sans se laisser vaincre ni par présent, ni par crainte, ni par pitié, ni par aucun sentiment de haine ou de bienveillance. Oui, l'office du magistrat n'est à peu près que ce que tu viens de dire. Nous avons donc trouvé que la puissance judiciaire n'est pas la royauté elle-même, mais la gardienne des lois et le ministre de la royauté. À ce qu'il semble, ce qu'il nous faut remarquer à la vue de tous ces arts que nous venons de nommer, c'est que pas un ne nous est apparu comme étant la science politique. La véritable science royale, en effet, ne doit pas agir elle-même, mais commander aux sciences qui peuvent agir. Elle juge des occasions favorables ou défavorables pour commencer et mettre à exécution dans l'État les entreprises importantes. Et c'est aux autres sciences à exécuter ces ordres. Bien. Ainsi, les sciences que nous avons passées tout à l'heure en revue ne se commandent ni les unes aux autres ni à elles-mêmes. Chacune d'elles est tout entière à une fonction qui lui est propre et dont elle tire son nom. Elles en ont bien l'air, mais pour la science qui commande à toutes ces sciences, qui veille aux lois et à tous les intérêts de l'État, et unit habilement toutes choses comme en un tissu, ne serait-il pas juste de l'embrasser dans toute son étendue, sous un seul et même nom, celui de science politique ? Tout à fait. Et ne voudrions-nous pas aussi l'expliquer par l'exemple de l'art du tisserand, maintenant que toutes les espèces de sciences qu'on peut trouver dans l'État se sont ainsi montrées à nous ? À merveille ! Nous avons donc, ce me semble, à dire ce que c'est que le tissage royal, comme il s'exerce et quel tissu il donne. Évidemment, certes, c'est une chose fort difficile que nous sommes obligés d'exposer. Il faut le faire néanmoins. En effet, qu'une partie de la vertu diffère en quelque manière d'une partie de la vertu, c'est là une idée contre laquelle les esprits qui se plaisent à disputer s'élèveront volontiers en y opposant l'opinion de la multitude. Je n'ai pas compris. Eh bien, d'une autre façon, je pense que tu regardes la force comme une partie de la vertu, sans doute. Et la tempérance comme différente, il est vrai, de la force, mais néanmoins comme formant également une partie de la vertu. Oui ? Eh bien, il faut se résoudre à avancer sur ces deux parties une assertion tout à fait étrange. Laquelle ? C'est qu'en beaucoup de choses, il se trouve entre elles, pour ainsi dire, beaucoup d'inimitié et de discorde. Que dis-tu ? Une chose qui n'est nullement ordinaire. En effet, on dit que toutes les parties de la vertu sont unies entre elles. Oui ? Examinons donc avec attention si cela est vrai sans exception, ou si décidément, il y a quelqu'une des parties de la vertu qui sont en désaccord avec ses sœurs. Soit, comment faut-il s'y prendre ? Il faut rechercher en toute chose ce que nous appelons beau, et que nous divisons pourtant en deux espèces contraires l'une à l'autre. Parle encore plus clairement.